Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous donnes encore ce matin pour pouvoir nous fortifier dans la foi, pour pouvoir épurer notre foi, pour pouvoir la booster, là, qu'on se fortifie dans ce qui fait partie de ta parole. Seigneur, merci de ta parole qui augmente notre foi. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, révèle-toi à chacun de nous, qu'on puisse comprendre tes vérités. Puis merci de ce que tu vas faire dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Aujourd'hui, on continue encore l'étude sur la foi. On a encore quelques leçons à voir là-dessus. Le titre du message, c'est « Ce que la foi n'est pas et ce qu'un disciple confessera ». Parce que on va voir que notre état naturel est là, puis ça, on peut pas la changer. Oui, on peut, pas nous, on peut faire des efforts pour changer, mais il faut qu'il y ait des choses qui changent, puis c'est Dieu qui va les changer. Qu'est-ce qu'un disciple doit faire quand il vit dans des choses qui n'est pas selon Dieu? Il va demander à Dieu, puis Dieu va agir. Mais entre-temps, il va confesser, c'est comme on a vu dans les chants, il va confesser le secours de Dieu. La Bible parle-t-elle de comportements ou réactions d'un chrétien qui sont contraires à la foi? Est-ce que ça arrive qu'on marche contraire à la foi? Parce que la Bible nous dit qu'on marche par la foi et non par la vue. Mais ça se peut-tu qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne qu'on marche pas par la foi?
Ça arrive pas,
oui. Oui, ça arrive. Puis ça, faut réaliser que c'est là. Mais est-ce qu'il faut s'en donner une excuse et accepter l'état?
Non, pas du tout.
C'est comme si tu as des doutes. Faut que tu fasses un effort, que tu ailles chercher les outils pour te renforcer. L'auteur du livre de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux, on ne sait pas c'est qui l'a écrit, mais on a des pensées qui sont très bonnes dans ce passage-là. Il nous enseigne que la loi, dans l'Ancien Testament, établissait des hommes sujets à la faiblesse. Ça veut dire que les sacrificateurs qui étaient consacrés là pour être dans le service de Dieu, si on voit ça dans Hébreux 7, 28, ça nous dit en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi, mais qu'on le veuille pas, parce qu'il n'y a pas des hommes parfaits qui étaient établis pour être comme sacrificateurs dans la loi de Moïse. Il prenait ceux qui étaient de lignée, de père en fils, de génération en génération, et le sacerdoce était transmissible de père en fils. Fait que, il prenait celui qui était là, puis c'était lui qui tombait cette année-là sacrificateur, ou qui tombait souverain sacrificateur. Là, il y avait des manières de désigner ça. Mais c'était pas des hommes parfaits. C'était des gens avec des défauts, avec des qualités, puis on espère qu'il n'y avait pas de péché, parce qu'il va avoir dans leur conscience le désir de se sanctifier. Mais comme on le sait, la purification des animaux n'était pas suffisant. Il faut vraiment purifier quelqu'un de ses péchés. Fait que c'était même des gens sujets à la faiblesse. C'était des gens qui tombaient comme tout le monde. Il n'y a pas personne de parfait. Mais pour nous, dans le Nouveau Testament, sommes-nous des gens sujets à la faiblesse? Bonne question. Est-ce que dans le Nouveau Testament, les chrétiens sont comme les hommes dans l'Ancien Testament, des hommes sujets à la faiblesse? Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer une vérité qu'il vivait, lui, dans sa vie. Puis il le dit qu'il n'avait pas atteint la perfection. Fait que donc, c'est un homme sujet à des faiblesses. Lui-ci, il s'est levé le matin, puis s'est cogné la grosse orteille, puis a peut-être dit « Ouch! » Peut-être ça l'a arrêté là, j'espère, qu'il en rajoutait pas, puis qu'il manifestait sa mauvaise humeur aux autres. Mais on voit qu'il y a eu des conflits dans sa vie avec les autres apôtres, quand il s'est pogné avec Pierre, puis qu'il s'est pogné avec Barnabas. Ça devait, des fois, ça ne devait pas être beau. Tu sais, dans le champ, c'était pas la... Des hommes parfaits. Puis Paul, il l'explique dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit, lorsque lui-même, Paul, réalisait qu'il avait un problème dans sa vie, puis demandait de l'aide à Dieu, puis dans son cas, dans ce problème-là, Dieu ne voulait pas le sortir de ce problème-là, puis il a dit, ma grâce te suffit. Tu vas rester avec ce que tu as dans ton corps. Il y avait un problème que Dieu ne voulait pas enlever. Puis là, Dieu lui donna raison. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans l'Ancien Testament, il choisissait des hommes sujets à la faiblesse. Et dans le Nouveau Testament, il nous dit la puissance de Dieu. Excusez. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand une personne est dans un état, oh, je suis pas sûr d'être capable. Tu sais, dans le sens, tu te confies pas dans tes capacités, je suis capable. Tu restes, tu diminues intérieurement, tu marches dans l'humilité, puis tu t'accroches à Dieu, puis tu t'attends de Dieu, ta foi en Dieu. Donc, on est des gens sujets à la faiblesse. On est, parce que là, Paul, dans d'autres versets, il explique que je fais ce que je veux pas, j'ai de la misère à faire ce que je veux. J'ai comme la nature humaine qui est encore là, puis on a nos réactions. Puis Jean, dans ses épîtres, il dit, si quelqu'un dit qu'il est parfait, on vise la perfection, oui, mais si quelqu'un se croit parfait, il est déjà menteur. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite à part que Jésus. On est un type, on a été déclaré parfait parce qu'on est purifié par le sang de Jésus, mais notre nature humaine est sujet à la faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on est humain. On a une nouvelle nature qui est en nous. Mais on a encore la vieille temporairement. Le temps que Jésus vienne nous chercher, ou qu'on meure, puis qu'il nous donne notre nouveau corps, là, que notre nouveau corps, ça sera plus pareil. Mais en attendant, on a combattre avec les faiblesses de notre chair. C'était des hommes pas parfaits dans ce temps-là, puis 2000 ans plus tard, on est encore des hommes non parfaits. La preuve, demandez à ma femme, elle va vous le dire.
Voilà.
Il y a un proverbe dans le monde qui dit, il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. Lui, le valet de chambre, celui qui fait le lit, qui amorce ses affaires. Pour lui, là, il voit l'homme, peu importe son état dans ce monde, il voit l'homme avec ses défauts. Comment est-ce qu'il réagit dans la maison, comment est-ce qu'il agit, c'est l'homme avec ses défauts. Pour lui, il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre. C'est pas écrit dans la Bible, mais il y a un fond de vérité. C'est quand tu t'habitues avec une personne, plus que tu t'es souvent avec, plus tu aperçois les petits détails, les petites affaires, qu'on n'est pas parfait. Puis il faut se l'avouer. Si on pense qu'on est parfait, on ferait fausse route. On est parfait en Jésus, oui, en titre, mais on vise à se perfectionner dans notre comportement. Puis Dieu, il dit que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand une personne réalise qu'elle n'est pas autosuffisante, qu'elle réalise qu'elle a besoin de Dieu, c'est là que ça va, que là, elle va s'accrocher à Dieu, puis c'est là que Dieu va pouvoir pleinement intervenir. Puis là, Paul, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ça veut dire que quand il parlait aux autres, il se vantait pas, là, quand il dit qu'il se glorifiait de ses faiblesses, ça en manque pas, mais il les avoue, il les confesse. Je suis pas meilleur que les autres, puis je suis un homme ordinaire, mais la grâce de Dieu est sur moi. Dieu agit, puis Dieu va faire ci, va faire ça. Dieu m'ouvre les portes, puis là, je vois la main de Dieu. Là, il rend la gloire à Dieu. Oui, nous avons des faiblesses, mais que doit-on faire lorsqu'on les réalise? C'est ça qui est la question. On l'avoue qu'on a des faiblesses, qu'on va le confesser toute notre vie. Mais il y a des choses que Dieu nous montre dans sa parole qui veut les changer. Qu'est-ce qu'une marche par la foi selon la parole de Dieu? Parce que le thème, c'est on marche par la foi, on s'accroche à Dieu. On marche par la foi, mais si j'ai des faiblesses, qu'est-ce que je dois faire? Puis là, on va voir certains types de faiblesses qui sont pas ce n'est pas la foi. Quand on marche de telle manière, c'est pas de la foi. Puis là, comment y arriver à s'en sortir ou changer ces choses-là? Dans quand on parle de marcher par la foi, puis là, on regarde l'ensemble des églises partout, puis les gros ministères, puis il y a bien des affaires qui se produisent. c'est pas toujours la volonté de Dieu que ça se passe comme ça se passe. Il y a beaucoup de gloire humaine, des gens qui s'élèvent, des gens qui profitent de leur position, puis ils ramassent le magot dans leur poche. Puis il y en a d'autres qui s'en tirent une gloire, puis ils prêchent Christ pour la gloire, par envie, pour causer du trouble. Il y a toutes sortes de raisons pour que le monde serve le Seigneur, puis qu'il agisse dans son Église. Mais on retient certaines affaires pour pouvoir... On ne regarde pas les autres, on va se regarder soi-même. Première chose qu'on remarque, toi n'est pas un spectacle dans le but d'élever les hommes. Tu sais, quand on voit des gens qui font un ministère de puissance, gloire à Dieu, mais quand Jésus était sur la terre et vivait sa puissance puis il manifestait les dons, c'était pas pour chercher à être élevé. Il fuyait ces occasions-là. Il cherchait pas à apparaître et à se faire donner la main. Puis il disait aux autres, dites-les pas, là. Il voulait pas se faire achaler, puis se faire... Il savait comment est-ce que l'homme, c'est facile d'élever quelqu'un pour en vouloir en faire un roi. Il voulait faire ses affaires discrètement. C'était pas un spectacle, là. Puis combien de fois qu'il va tomber à terre, tu sais? Puis là, de commencer à... Puis là, il signe les autographes quasiment après avoir fait sa séance, puis il vend leurs affaires au gros prix, leurs livres, toutes leurs affaires. Il y a comme un racket qui s'est développé autour de la foi. Parce que l'homme n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit, de ce qu'il a comme capacité spirituelle. Tout vient de Dieu. Le salut vient de Dieu, les dons viennent de Dieu, l'onction vient de Dieu, les divers dons spirituels, là, t'as le don de guérison, là, tu peux même pas penser qu'une seconde que tu y es pour quelque chose. C'est un don que Dieu donne à la personne, puis c'est pas pour tes poches qu'il donne ça, il donne ça pour que le monde se tourne vers Jésus, et non pas pour élever l'humain. Dans Romains 3, 27 et 28, ça dit « Où donc est le sujet de se glorifier? » Tu peux pas penser que tu vas te servir de la position que Jésus t'a donnée, d'être, mettons, devant une église de 3, 4 000, 5 000, puis vouloir profiter du système. Puis d'en t'en servir pour amener la gloire. Tu peux pas penser de même. Sinon, tu es dans le péché. Dieu n'a pas donné ses dons et ses positions dans le Seigneur pour dans l'œuvre pour la gloire des humains. Il a pas, l'homme n'a aucune raison de se glorifier et doit rendre gloire à Dieu en toute chose. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des hommes? Non, mais par la loi de la foi. C'est par la foi que toutes les choses s'obtiennent. On croit que c'est Dieu qui nous a donné les dons, les capacités, l'énergie. Il nous donne d'être populaire ou de pas l'être. C'est lui qui ouvre les portes, puis toute la gloire doit revenir à Dieu. Un deuxième point, ce que la foi n'est pas, la foi n'est pas une confession de pensée positive. Parce qu'il y a des livres qui s'écrivent, même dans des livres du Nouvel Âge, mais il y a des livres chrétiens qui reprennent les idées du Nouvel Âge, puis ils rajoutent l'idée que si tu visualises l'affaire, puis là, tu es comme en train d'incuber l'idée, puis là, tu répètes tes phrases à force de répétition, tu penses que les choses vont s'accomplir parce que tu récites tes paroles positives, là. Ça va aller bien dans ma vie, ça va aller bien dans ma vie. Là, il s'en récite, mais c'est pas basé sur des versets ou une attente que Dieu agisse. Ça, c'est une pratique du monde. Mais il y a des gens dans l'Église qui pratiquent ces choses-là, puis ça fait pas partie de la vie chrétienne. C'est pas des, ça fait pas partie de la marche par la foi. C'est comme si les gens sont mêlés. Ils lisent pas les passages de la parole de Dieu. Dans Matthieu 6, 7, Jésus, il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme si tu multiplies, là. Il répète, quand il en fait 40, puis il fait une autre sorte de prière, il en fait une autre sorte de 30. Là, on pense qu'à force de multiplier des paroles, qu'on va finir par être exaucé. Il y a des religions qui font ça, ce genre de prière-là, puis c'est pas de Dieu. Dieu, il n'est pas une machine que tu lui donnes 30 prières, puis là, il y a un exaucement. Ou une autre sorte de genre de prière, t'en fais 20 de ce genre-là, puis tu vas avoir un exaucement. Oui. Avec un, puis tu mets une annonce dans le journal, puis tu demandes au monde. Ça a pas, c'est pas ça la foi. C'est pas ça marcher par la foi. C'est de croire que Dieu il entend tes prières. Tu crois que Dieu est là. Il est ressuscité. Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours. Il est là. Il tient notre vie dans sa main. Fait qu'il est là. Tu as juste besoin d'y dire. Tu n'as pas besoin d'y répéter 20 fois. Des fois, notre femme peut nous répéter 20 fois de faire quelque chose. Mais à Jésus, tu n'as pas besoin. Il a une bonne mémoire. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est pas à force de paroles. C'est des prières de foi que Dieu va entendre. On le sait qu'il est là, on le sait qu'on a le droit d'y demander dans le nom de Jésus. Tous les mérites des exaucements, c'est à cause de Jésus. Fait que je demande par la foi, en croyant que je m'approche de Dieu, j'ai le droit de m'approcher de Dieu, parce que Jésus a tout accompli, il m'a ouvert la porte. Je n'ai qu'à le demander, puis en croyant que je l'ai reçu, puis je vais le voir s'accomplir. Fait que Jésus nous entend. C'est ça, les prières de la foi. Tu peux la répéter à tous les jours. C'est pas, là, quand je parle de répétition, ça veut pas dire qu'on ne demande pas plusieurs fois. Jésus était dans le jardin d'Éden, là, il a demandé 3 fois la même prière. Juste avant de se faire crucifier. Ça veut pas dire qu'on peut pas répéter la même phrase, mais la répéter, tu répètes ton idée, mais en y pensant, puis en y croyant, puis tu répètes la chose, mais c'est pas une prière apprise par cœur qu'on récite, voyez-vous. La foi saine demande l'attachement et la confession de nos paroles, là, basées sur la Bible et non sur les autres livres. Quand on marche par la foi, on marche par la foi dans les déclarations de Dieu. Dieu dit. La parole de Dieu dit, pas Pierre-Jean-Jacques a dit. Ça fait une différence, parce que quelqu'un ne lit pas la Bible, puis qui se fie aux enseignements qu'il entend, soit les celles du pasteur à l'église où il va, ou sur Internet, quand on a des tonnes de prédicateurs, puis tu écoutes les pasteurs, puis ils disent plein d'affaires, puis là tu te sers de ça. Non, ça n'a zéro puissance. C'est la parole de Dieu qui est puissante et qui est vraie. Puis les exemples de la Bible, c'est Dieu qui a permis qu'on les ait pour s'en servir. C'est des exemples donnés pour nous instruire, nous enseigner, pour nous révéler ce qu'on devait suivre. C'est sûr que Caïn et Abel, il y en a un qui a offert ses patates, puis l'autre qui a offert un agneau. Chacun s'est approché comme qu'il pensait. Mais Dieu, il a quand même dit... C'est de cette façon-là, selon Abel, que je veux que vous approchiez de moi. Dieu a dit dans sa révélation, j'aime quand on m'offre des agneaux. L'autre n'était pas content parce qu'il offrait ses patates, il était cultivateur. Puis là, il a pogné un dard. Puis il s'est découragé, il a tué son frère. Mais au lieu de ça, prends tes patates, ajoute-y un agneau, puis présente-toi avec la manière que Dieu veut. Mais où est-ce qu'elle est la manière que Dieu veut qu'on s'approche de lui? C'est dans la Bible. Tout est déjà révélé. On n'a pas besoin de chercher des nouvelles manières puis de présenter ça à notre manière. Tout est là. Lisons la Bible puis mettons moins d'efforts. Disons, je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter des prêches, mais notre foi ne doit pas être basée sur les prêches. La foi doit être basée sur les versets. C'est la parole de Dieu qui est la puissance qui sauve, pas ce que Daniel Poulain dit. Fait que vous pouvez l'écouter si ça vous dit, mais écoutez les versets, retenez les versets. Puis quand vous présentez à Dieu, présentez sur des versets. dans Tite 1.13, Paul est en train d'expliquer ça à Tite, cette idée-là. Il dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Il y a des gens là qui disaient des prophéties qui n'étaient pas de la Bible. Puis là, il dit, reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. On veut marcher par la foi, mais il y a un moyen d'arriver à une foi saine. Ce qui est saint, ce qui est biblique, ce qui est consacré, ce qui appartient à Dieu. Excusez. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques puis à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voyez-vous, même dans ce temps-là, Paul expliquait de s'attacher pour avoir une foi saine, laissez faire les fausses prophéties, laissez faire les fables, laissez faire les légendes urbaines, laissez faire toutes les choses pas vraies, et même les commandements d'hommes. Laissez faire le reste. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Ayons une foi saine, basée sur les saintes Écritures. Marcher par la foi, c'est marcher selon ce qui est déjà là. Tu avances avec ce qu'il y a là, puis tu resteras à l'écoute de Dieu pour les œuvres comme secondaires, les œuvres selon l'appel que Dieu met sur notre cœur, notre vie, selon ce qu'on est appelé. On va voir d'autres points, comme je disais tantôt, on n'est pas parfait. On apprend à le devenir. Mais il faut pour devenir, pour qu'une chose change, il faut que j'en entende parler. Quand j'en entends parler, là, après ça, on fait attention, puis on remarque, puis là, on prie pour ça. Le manque de foi, écoutez bien celle-là, là, on va apprendre à marcher par la foi, mais le manque de foi par les inquiétudes de manger, boire, le vêtement, c'est un problème, cela. Là. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas par la foi, ils manquent de foi quand ils parlent, parce qu'ils se mettent à s'inquiéter au niveau du manger, du boire puis de leurs vêtements. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi je vais être habillé? Là, on s'inquiète. Dans Matthieu 6, 31, si on veut apprendre à marcher par la foi, il faut réaliser que Dieu connaît tous nos besoins. Jésus l'a enseigné. Ne vous inquiétez donc point. L'inquiétude, là, quand tu t'inquiètes, ça peut arriver une petite inquiétude, mais aussitôt tu réalises que tu as l'inquiétude. Seigneur, je remets ça entre tes mains. Parce que c'est naturel, là. On est des hommes sujets à la faiblesse, on peut vivre des inquiétudes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quand on en vit une? Ouais. Jésus dit, ne vous inquiétez donc point, puis ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses seront données par-dessus. Fait que, quand tu veux marcher par la foi, tu t'inquiètes plus. Sur qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire, de quoi tu vas être vêtu, tu vas savoir être toi sans tête. Tu vas-tu ci, tu vas-tu ça. Dieu, il sait qu'on a besoin. Marcher par la foi, c'est commencer à faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut répondre dans ça quand on dit qu'on marche par la foi? Mais la marche par la foi dira, dans Philippiens 4:19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne parole à dire. Mon Dieu pourvoira en toutes choses. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Quand tu marches par la foi, tu vas dire, oh non, je suis pas sûr. Non. Mon Dieu pourvoira. On se laisse pas aller à critiquer ou à manifester nos inquiétudes. Le buzz de l'inquiétude vient tout de suite du « Mon Dieu pourvoira tous mes besoins. » Quand Abraham est allé pour offrir son fils en sacrifice, qu'est-ce qu'il a répondu à son fils? Il dit « L'Éternel pourvoira à l'agneau. » C'est Dieu qui va pourvoir. Il dit, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. L'Éternel va pourvoir à l'agneau. Mon Dieu pourvoira. Il faut apprendre à répondre par la foi. Dieu va pourvoir. La connaissez-vous? Pouvez-vous dire ça? Êtes-vous capable de dire ça? Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Dieu pourvoira. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Dieu va pourvoir. C'est ça, marcher par la foi. Dieu va pourvoir. Quand tu pars avec cette idée-là, après ça, tu confesses ça dans tes moments d'inquiétude. Dieu va pourvoir. Tu seras pas rongé par l'inquiétude. Puis tu tomberas pas sur un dame par l'inquiétude. Mais ce que je voulais peser, c'est que nous sommes tous pécheurs. Ça peut arriver à tout le monde de s'inquiéter. Même les plus grands prédicateurs dans ce monde, ils peuvent s'inquiéter. Mais si on ne se laisse pas aller dans l'inquiétude, aussitôt qu'il y a un cas à rien, il faut confesser un verset de foi. Dans d'autres situations que la Bible nous montre, le manque de foi dans la marche par la peur, quand on a peur d'une situation. Ça crée une instabilité dans notre vie, ce quand on a peur. Il y en a qui marchent sans peur dans leur vie. Gloire à Dieu s'ils n'ont pas de peur. Mais la majorité du monde ont vécu des peurs. Peu importe la situation. Mais quand tu as des peurs, là, ça peut paralyser, ça, là, ça peut te bloquer, ça peut te faire t'empêcher d'avancer dans ta vie. Il y en a qui ne foncent pas dans rien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ça ne marche pas. Ils ont peur peur de sortir dehors. D'un coup, qu'il y a un assassin qui se promène. D'un coup, qu'il y a un lion dehors. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons que. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on se dit qu'on veut pas bouger parce qu'on a peur. Mais dans l'exemple que je vais prendre dans Matthieu 8, 23, c'est l'histoire des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Puis là, il y a eu une tempête, Jésus dormait dans la barque, puis il y a eu une tempête, le loup, là, eux autres, c'est des gars qui étaient habitués de la pêche. Normalement, ils n'ont pas peur de l'eau. C'est du monde quand ils sont habitués de la pêche. S'il y en a quatre là-dedans, au moins, c'était des hommes, c'est le métier, la pêche. Pierre, son frère, puis Jean, puis Jacques, c'était des gars qui étaient habitués à la pêche. Puis là, cette fois-là, il y avait une tempête, là, il y avait peur. Il monta dans la barque, dans Matthieu 8, 23, jusqu'à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte. On est 12 dans chaloupe, 13 dans chaloupe. Là, les vagues rentrent dans chaloupe. T'es au milieu de la mer. Je sais pas si c'est la mer, moi, j'ai pas checké. Et lui, il dormait. Jésus, lui, il était en train de se reposer. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, puis il y eut un grand calme. Wow! Ça, c'est quelque chose. Mais ce qu'on retient là-dedans, c'est la réponse de Jésus. Tout le monde aurait dit, c'est normal d'avoir peur. Si les gars qui étaient habitués à la pêche sont habitués d'y aller, ils n'ont pas peur d'habitude, mais là, c'était vraiment laid. Puis Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On parle de marcher par la foi, mais la peur, c'est contraire à la foi. Si la peur te bloque, si la peur t'empêche, si la peur... Ah, ben moi, je ne parlerai pas de Jésus, elle lui, t'as peur. C'est un manque de foi. Comme croire que Dieu ne sera pas là avec toi pour y aller parler. C'est comme si tu penses que tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul, Jésus est dans la barque. Si Jésus était avec nous autres, il n'y a pas de danger. Jésus, il avait sa mission à faire. Il ne pouvait pas mourir noyé cette journée-là. Fait qu'on n'a pas de raison d'avoir peur. Mais l'humain a peur. C'est naturel, on est des hommes sujets à la faiblesse. Mais cette peur-là paralyse, puis elle les empêche d'accomplir des choses. Mais Jésus appelle les gens qui ont peur, gens de peu de foi. Tu veux marcher par la foi? Tu es prêt à avancer dans n'importe quelle situation. Tu sais que Dieu est avec toi et que tu n'as pas peur. Même si c'est une personne que normalement tu as peur, tu confesses des versets que Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'une personne qui marche dans la foi va dire? Dans le psaume 23, comme par exemple, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si tu es assez beau. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Êtes-vous capable de la dire, celle-là? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. S'il y a des peurs qui montent, des frayeurs, peu importe la cause de la situation, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi qu'on n'a pas peur? Parce que Dieu est avec nous. Alléluia! Tu marches par la foi, tu as des peurs. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Amen.
Gloire
à Dieu. Un autre exemple qu'on trouve dans la Bible, le manque de foi dans les doutes. Est-ce que le doute, veut pas, le doute, c'est de douter sur ce que Dieu dit, ce que Dieu est réellement là. Dieu, sa parole est-tu vraie? Ça va-tu arriver? Ça marche-tu? Toutes les paroles comme pour remettre en question ce qui a été déclaré par Dieu. Là, on parle dans un autre exemple de Matthieu 14, 28. Quand Pierre, il était dans la barque, là, Jésus marcha sur l'eau. Une tempête, là, avec, là. Puis il y avait de la misère à la gang, là, à se rendre. Parce qu'il ramait, mais le vent était contraire. Quand le vent est contraire d'une chaloupe à la rame, tu donnes un coup, ça recule. Le vent pousse sur des fois, t'avances un bout, tu recules, c'est long de traverser. Puis là, Jésus marcha sur l'eau. Il est en train de débosser en marchant. Il faisait un bon bout qu'il était parti avant lui. Il a dit, allez-y, l'autre, traversez l'autre bord, je vais aller vous rejoindre. Il est allé le rejoindre à pied en marchant sur l'eau. Gloire à Dieu, ça devait être un spectacle extraordinaire, mais quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont tous été saisis de frayeur, ils pensaient de voir un fantôme. Dans Matthieu 14, 28, là, il y a Pierre qui a crié à Jésus, a parlé à Jésus. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi! » Parce que là, il voulait avoir une confirmation. « C'est Jésus qui est là, qui s'en vient en marchant sur l'eau. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il attendait juste une parole dans « Ordonne-les, là, puis je saute, je vais te rejoindre. » Allez, il avait une super de foi, là, où tu sois prêt à se dire « C'est Jésus qui marche sur l'eau, il a juste besoin de dire une parole, puis je débarque, puis moi aussi je vais y aller, puis je vais marcher sur l'eau. » Il avait la foi. Puis Jésus, il a dit « Viens! » Restez ici, les gars, ils débarquent de la barque, il a marché un bout. Gloire à Dieu, la puissance de Dieu l'a maintenu à marcher sur l'eau, un bout. Jusqu'à temps qu'il commence à regarder chaque bord, wow, les grosses vagues, lui, il a commencé à être distrait, puis là, il a coulé. Mais c'était quand même extraordinaire. Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Puis le monde essaie de dire, ouais, c'est parce qu'il savait où c'était des roches. Il n'y avait pas de roches. C'était en plein milieu de la mer. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Une distraction dans sa foi. Et comme il commençait à s'enfoncer, je ne sais pas dans combien c'était d'une shot ou tranquillement, wow, je coule. Là, ça rentre tranquillement. Il s'écriant, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main puis le saisit. Hey. Ça, ça devait être encore une chose extraordinaire. Mais c'est la phrase que Jésus lui a dit. Il venait de marcher quelques pas sur l'eau. Ça, c'est gloire à Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Il avait la foi. Il a marché par la foi un bout jusqu'à temps que le doute embarque. Puis là, il s'y met à couler. Puis Jésus, il répond, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Il y a un secret là-dedans, il y a une révélation. Jésus a dit « Viens ». Le fait que Jésus dise « Viens », ça devait être suffisant pour dire « J'y vais ». Il a été, il a marché sur l'eau un bout, jusqu'à temps qu'il oublie que c'est Jésus qui venait de dire « Viens ». Il s'est mis à penser à tous les autres détails autour. Là, il a commencé à douter. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On veut marcher par la foi dans notre vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans le but de nous distraire, pour nous empêcher d'entrer dans la foi qui vit les miracles. Ah, est-ce qu'il y a juste Pierre qui est appelé à vivre ces choses-là?
Non.
C'est pas écrit. Mais il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu peux voir, puis imposer les mains aux malades seront guéris, ils chasseront des démons, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Là, il en a une coupe, mais dans la Bible, t'en vois plein de miracles qui s'est produit. Des paroles de révélation, des prophéties, des guérisons, des miracles. Quand on est paralysé par des situations qui nous font peur, qu'est-ce qu'on doit déplorer? Est-ce qu'on doit se laisser arrêter et commencer à couler? Ou on doit dire, comme Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui va être contre toi? Personne ne peut t'arrêter. » Tu vas avancer par la foi. Dieu est avec moi, je vais y aller. Dieu est avec Jésus, là, il a dit, viens. La parole était pour lui. Il a été par la foi, puis il a marché un bout jusqu'à temps qu'il doute, mais il n'aura pas dû douter. Puis nous, c'est la même chose. On est tous appelés à des tâches différentes. Il nous dit, viens. Là, on est à lui, là, on court après lui. Ne nous arrêtons pas. Laissons-nous pas intimider par ce qui nous arrive. Arrêtons pas de croire puis d'avancer, de marcher par la foi. Sinon, on va se faire dire la même chose. Pourquoi te douter? Je t'ai dit, viens. Si Dieu nous dit, viens, allons-y. Si Dieu est avec nous, oubliez le reste. Si Dieu vous a dit, vas-y, fais ça, vas-y, laisse-toi pas intimider. Une autre raison, un autre manque de foi qui peut arriver à des gens de faiblesse, c'est lorsqu'on est tenté par le diable et par le péché. Ça peut arriver à tous les chrétiens, puis ça va arriver encore d'être tenté par le diable et par notre chair, les tentations du péché. Est-ce qu'à cause de cela, je vais abandonner la foi ou je vais relâcher dans la foi parce que je vais aller par là? Parce que j'ai une tentation? Parce que j'ai une épreuve? Parce que j'ai des attaques? Parce que je suis oppressé? Parce que je suis achalé? Parce que je suis malade? Peu importe les choses qu'on vit. Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, on en parle souvent d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Puis là, l'autre phrase est autant importante, puis même plus importante que celle-là. Résistez-lui avec une foi ferme. La différence de la fermeté, c'est quand tu es rendu ramolli, quand tu es ferme, il n'y a pas de peut-être. Excusez. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand tu es tenté par le diable, attaqué ou tenté dans des péchés, mais quand tu dis, tu marches par la foi, mais tu vas répondre qu'avec le verset Matthieu 4, 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, ou arrière de moi, Satan, car il est écrit. » Là, tu sors la phrase, le verset, la promesse. Lui, il essaie de te dire des doutes pour essayer de te faire douter parce que tu as péché ou il te rappelle ton passé, puis là, il veut que tu te sens coupable. « Arrière de moi, Satan, il est écrit. Il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je suis pardonné. Je n'ai pas d'affaire à laisser aller les culpabilités quand tu as déjà confessé ces affaires-là. » Ça, je donne un exemple, mais dans toutes les attaques qu'il peut faire, tentation, s'il y a une tentation de tomber en adultère, « Ah oui, elle est cute, elles sont belles. » Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est naturel de voir qu'il y en a des belles. Ça peut être, il peut en avoir des belles. Oui, il y en a des belles filles autour, oui, puis moi, je n'ai pas question. Dieu dit, tu ne feras point d'adultère. Celle-là, ça vient de dire, point final, j'y irai pas. Tu réponds avec un verset. Dieu dit, tu ne feras pas d'adultère. Même pas dans les pensées à se laisser aller. Fait que, tu sors un verset qui dit, il est écrit. Puis tu sors le verset. C'est le même qu'on répond par la foi. On a une faiblesse, il nous tente. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller à cela. Il faut dire, il est écrit, on ne fera pas d'adultère. Tu ne tueras point. Pas le droit d'haïr personne. Tu diras point de faux témoignages. On ne compte pas de menterie. Tous les commandements, là, c'est des guides, là. C'est des lignes guides qui sont en cours là. Dieu n'a jamais aboli les commandements. Jésus a dit qu'il fallait les mettre en pratique. Le manque de foi, des fois qu'on peut avoir en manquant de persévérance. On commence quelque chose, mais on manque de foi, puis on se rapprête. Bon, ça ne nous pousse pas à ce que je pensais. Ah, c'est un petit peu trop compliqué. Ah, c'est un petit peu trop, mais un petit peu, on se trouve des raisons pour lâcher. Si on a un appel, que Dieu nous appelle à quelque chose, persévérons. La victoire est pour ceux qui persévèrent. Dans Hébreux 6, 12, ça dit, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Faut pas se relâcher. Faut pas, on laisse aller l'affaire. Dieu nous appelle à quelque chose, on embarque, comme suivre Jésus, par exemple. T'as accepté Jésus, t'as pas accepté Jésus même pour 5 ans ou 10 ans. Faut que tu persévères jusqu'à la fin. Tu vas t'accrocher au Seigneur, puis je lâche pas. Il faut que tu arrives à être un imitateur de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Tu veux marcher par la foi, mais marche par la foi et la persévérance, là, tu vas hériter les promesses. Quelqu'un qui marche par la foi, il va dire, comme dans Matthieu 24, 13, Jésus le dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça, c'est une parole que Jésus a dit, et tu peux te servir de ça pour te motiver à persévérer. Ça ne te tente plus, tu as le goût de lâcher le Seigneur. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui va être sauvé. Un dernier point, des fois c'est le manque de foi en ne croyant pas aux promesses dans la parole de Dieu. Dans Romains 4, 20, ça nous parle l'exemple d'Abraham, qui lui, il avait eu une promesse à l'âge de 70 ans, sa femme était stérile, il n'a jamais eu d'enfant, Il était rendu à 70, puis il aurait aimé avoir un enfant. Puis Dieu lui a dit, tu vas en avoir un enfant. Il y a une multitude de toutes les nations, mais il dit, ta postérité, elle va être aussi nombreuse que le sable de la mer, puis aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Une multitude incalculable qui va sortir de ta postérité. Puis sa femme était stérile, puis lui... Là, ils ont attendu, là, il avait 70 à peu près. Puis il a eu son enfant à 99 ans. Puis sa femme en avait 90. Puis c'est arrivé à plusieurs moments où il y a eu des hauts et des bas dans sa foi pour mettre à l'épreuve sa foi. Dans Romains 4, 20, il parle de lui puis il dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Quand Dieu promet quelque chose, il n'y a pas de place au doute. C'est pas n'importe qui. Là. Dieu est capable d'accomplir 100% tout ce qui est promis. Il n'y a pas une promesse de la Bible que Dieu ne tiendra pas. Sa parole demeure éternellement. Puis Dieu ne ment point. Il y en a juste un qui ment, c'est le diable. Dieu ne ment pas. Puis tout ce qui est écrit là va s'accomplir tel que ça a été dit. Et toutes les promesses sont là pour tous ceux qui ont la foi, peuvent les saisir, puis on les confesse, puis Dieu ne ment point, puis ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir.
Amen!
Il ne doute point par incrédulité. Quand on est incrédule, on doute, c'est parce qu'on est en train de devenir incrédule. Faut s'arrêter, là. Wow, le doute! Il n'est pas question de douter sur ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. Si Dieu serait un menteur, mais Dieu devrait se juger lui-même parce qu'il viendrait d'enfreindre un des 10 commandements. Dieu ne peut pas mentir. Il a promis ce qui est promis, puis ce qui est promis, il est capable de le faire. Il a la puissance pour le faire. Fait qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Merci Seigneur de mon fils qui s'en vient. Je ne l'ai pas encore, ça prend du temps. Il y a eu des attaques, des idées. Il a pensé que peut-être qu'il faut que je fasse un enfant avec ma servante, puis qu'on va le donner. Non, Dieu a dit, ça ne sera pas lui, c'est un qui va venir de Sarah. Puis ça a été plus tard, une douzaine d'années plus tard. Fait que même s'il n'a pas douté qu'il y aurait un fils, mais il a essayé d'accomplir la promesse par lui-même. Peut-être que Dieu a besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin d'aide. Ce que Dieu a promis, est capable de le faire. Puis il a gardé la foi. Puis il s'est fortifié en disant, « Merci Seigneur que tu me l'as promis, puis je l'attends. » Puis ça n'a pas l'air d'arriver tout de suite, mais je continue à l'attendre. Puis « Merci Seigneur pour qu'est-ce que tu vas faire. » Je l'attends, puis je le crois. Puis « Merci Seigneur. » Il s'est fortifié en rendant grâce à Dieu d'avance. « Merci Seigneur pour ta promesse. Merci qu'est-ce qui s'en vient. » J'avais des choses, des problèmes dans vos vies. Merci Seigneur pour tes promesses, les choses vont s'arranger. On donne gloire à Dieu, on remet notre problème dans les mains de Dieu. Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Besoins, je ne parle pas, ne demandez pas un Cadillac. C'est pas un besoin de Cadillac. Mais les besoins, présentez-les à Dieu. Puis croyez que Dieu est capable de faire. Il n'y a rien à son épreuve. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux pas avoir plus fort que celle-là. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. On think big, Dieu il est grand, puis il a créé l'univers, puis il nous a pas demandé de conseils, puis il a pas été un architecte ou un ingénieur. Il a créé l'univers, puis quand il était capable de la faire, puis il nous a créé, puis il est capable de s'occuper de nous dans tous les petits détails.
Amen.
La marche par la foi dira, 1 Corinthiens 1:8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu l'a promis, ça va s'accomplir. Dieu est fidèle. Êtes-vous capable de confesser ça? Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il est capable de l'accomplir. Si vous avez des doutes, mettez toutes les mains du Seigneur. Dieu est fidèle, les choses accomplies, telles que ça a été promis. Il y a des promesses, il y en a pour tous les sujets dans notre vie. On a juste à s'accrocher, à marcher par la foi, puis on va les voir s'accomplir. Voyez-vous, le titre du message, ce que la foi n'est pas et ce qu'un disciple confessera. Savez-vous qu'est-ce qu'il faut confesser? Pour confesser la parole de Dieu, les promesses de Dieu par la foi. C'est ça la marche par la foi. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole pour nous fortifier dans la foi. Merci de révéler tous les doutes, les blocages, les peurs, etc., qui essayent de nous empêcher. Augmente notre foi, notre fermeté, notre confiance. Puis apprends-nous à tout te remettre entre tes mains. Tu dis, et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Merci Seigneur d'être riche en bonté envers nous et de vouloir déjà t'occuper de nos vies. Prends nos vies, on te les donne, et guide-nous dans tout cela, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.